Bonjour auditeurs de Radio Guémozo, j'espère que tu es en pleine forme en ce vendredi 28 novembre. Je suis Lia et je suis en direct avec toi depuis l'odeur du son. Une heure de rencontres, de musique, des invités qui débarquent avec leurs disques et leurs histoires. On parle, on écoute, on partage. Et aujourd'hui avec moi l'auteur Jérôme Bonnet. Bonjour Jérôme, comment ça va ?
Bah écoute, ça va.
Bah oui.
On s'était fixé un nouveau rendez-vous et ça fait plaisir de revenir et après plusieurs mois.
Oui, c'est vrai que tu étais venu en août dernier.
Ouais.
On devait se retrouver en septembre, mais les aléas ont fait que c'est aujourd'hui.
Tout à fait.
Avec toi, autour de la table, mes deux collègues préférés. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas difficile de choisir. Lou et Sam, bonjour.
Hello, bonjour.
Comment ça va ?
Ça va, la forme.
C'est une première en direct pour Sam.
D'accord, ok.
Voilà.
Ça va bien se passer.
Ça va bien se passer. Ça va très, très bien se passer. Je suis toujours ravie de t'accueillir, Jérôme, dans l'odeur du son. Tu étais donc mon invité il y a quelques mois, on vient de le dire. On discutait ensemble de ton livre intime.
Ouais.
Un très, très beau livre sur la spiritualité, comme j'aime à l'appeler. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard.
Ouais.
Et nous n'avions pas eu le temps de discuter de ton autre ouvrage de l'année, Brume, sorti en avril dernier. Hein, c'est bien ça ?
C'est ça, tout à fait.
Ouais. Un thriller polar prenant racine avec le harcèlement. Tu nous entraînes donc ici dans un tout autre univers sombre, haletant, où la brume cache bien des secrets.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous en dire déjà quelques mots ? Comment est né ce roman ?
J'avais envie de parler de justement de ce sujet du harcèlement et j'avais jamais évoqué l'épisode de la tempête de 99, je me suis dit, allez, on va revenir dessus, on va raconter un peu ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas vécu cette tempête. Et puis, j'avais envie de parler de Remiremont, de ses environs, de la fête des Changolos et de mettre la rivière et l'eau sur le devant de la scène, quoi.
L'eau, ça a une grande symbolique, hein.
Oui.
Est-ce que tu t'en sers de cette symbolique
Oui. Oui. Ouais, énormément, ouais.
Tu peux nous expliquer un petit peu la symbolique de l'eau brièvement.
La symbolique de l'eau, il y a surtout la purification, le nettoyage, le retour des mémoires, ce genre de choses. Et là, pour le coup, on est bien servi avec toute l'eau qu'on a dans les Vosges et là où je place les différentes scènes.
Et puis, c'est l'émotion aussi, l'eau.
Oui, hein,
on dit, c'est la fluidité, etc. Moi, je suis toujours ravie de t'accueillir parce qu'on peut faire plein de parallèles spirituels avec toi. Et ça me fait bien plaisir. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas pris le micro, donc je suis contente de le reprendre aujourd'hui dans cette odeur du son avec toi. Tu nous fais voyager, tu viens de le dire, dans des paysages mystérieux des Vosges à la Moselle pour y explorer les recoins de l'âme humaine. C'est quelque chose de très important pour toi, le patrimoine local dans tes romans. Et il me semble que tu participais à une rencontre en octobre dernier sur ce sujet à Docelles.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Okay, j'étais... Je n'ai pas imaginé.
Non, j'ai eu une séance de dédicace à Docelles qui est le village qui m'a élevé quelque part et j'ai été accueilli par les bénévoles et les personnes de l'établissement justement de la médiathèque du village. Et pour moi, ça a été important parce que c'est une rencontre qui a été faite en partenariat avec la médiathèque et avec Christian Tarantola qui est conseiller régional, il me semble, ou départemental des Vosges et qui est un passionné d'histoire. Et du coup, avant la rencontre, il avait lu le livre et il m'a dit, écoute, ça, c'est un livre, c'est du lourd. C'est du lourd parce que il connaît mon père parce qu'ils ont été ensemble à la municipalité. Mais il m'a dit là clairement j'ai lu les choses et c'est du lourd et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit que venant de lui c'était un bon compliment pour quelqu'un qui est passionné d'histoire et qui connaît c'était génial quoi.
Ouais.
C'était génial de pouvoir parler de ce roman
À quel moment c'est pas du lourd quand t'écris un livre toi parce que
je
ne peux pas te flatter, mais quand même, c'est du lourd. C'est toujours du lourd. Et ça a toujours une grosse importance pour toi, le patrimoine. Et tu fais des recherches sur les lieux, etc.
Oui. Et d'ailleurs, ça a été intéressant parce que Christian Tarantola connaît l'ensemble des lieux dont je parle. Et notamment, à un moment donné, je parle d'une ancienne commanderie, d'une ancienne prison de commanderie templière qui est perdue dans un coin des Vosges et qui est en ruine. Et on en a discuté parce qu'il connaît, il la connaît. Il dit, mais c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui savent.
Ah ouais.
Voilà, c'est vraiment sympa, quoi.
Mais c'est caché ou c'est pas accessible au public?
Si, c'est accessible, mais seulement il faut savoir où c'est, quoi. C'est avec la végétation, avec tout, voilà, mais...
Il faut que tu nous donnes les infos, là. Ouais. On va lui faire un reportage. Est-ce que tu as ressenti des choses là-bas, sur place? Parce que ça doit être super fort.
Ouais. Bah, d'ailleurs, tous les paysages que je décris, en fait, je les décris... en fonction de ce que j'ai ressenti. Et même Christian me disait, quand tu parles d'Ocelles, parce qu'il y a une scène qui se passe à d'Ocelles, etc., dans le petit parc qu'ils ont fait avec l'ancienne municipalité, et il me dit, on connaît le truc, mais en fait, t'arrives par la description, etc., à mettre, on a un sentiment de mal-être ou de... Ouais. Voilà, avec l'utilisation des mots, il y a un malaise et on voit les choses autrement.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, d'Ocelles, c'est très particulier comme endroit.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Moi, ça me met mal à l'aise, justement.
Parce que je pense, c'est lié au passé, malheureusement, de la chose. Mais justement, je voulais, comme je leur avais expliqué à l'époque, à la dédicace, j'avais envie de donner une autre image de d'Ocelles, une autre image de ce que les gens ont pu en avoir depuis les Vosges ou depuis l'extérieur des Vosges. Et de montrer qu'il y avait vraiment un véritable patrimoine papetier. Enfin, l'ambiance, tu vois, par exemple, je décris une ambiance où quand j'étais plus jeune, je me souviens, je partais le matin, je croisais les papetiers qui étaient en habit vert, et l'hiver, t'avais la neige blanche et t'avais la poussière qui tombait en même temps que la neige, des trucs des papeteries, et qui était sur les vêtements. Et ça, je voulais le décrire, en fait. Je voulais rendre hommage à ces personnes qui ont fait l'histoire du papier, en tout cas à d'Ocelles, quoi. Voilà.
Ce que j'aime bien dans ton livre, c'est qu'il y a une histoire de perception, justement. Une perception un petit peu vaste, hein, sur le bien et le mal, les gens, comment ils évoluent, mais aussi une perception de son environnement, un petit peu de hauteur, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Voilà, c'était mon petit point. Dans tes histoires, au-delà du suspense et du symbolisme, sont toujours abordées des thématiques profondes et actuelles.
Oui.
C'est vrai que je ne sais pas trop comment tu fais, mais tu es toujours un petit peu dans l'actu. Je pense aussi à ton roman Babel, hein. C'était une dystopie autour de la réflexion sur l'IA.
Oui, tout à fait.
Voilà. Cette fois, tu évoques donc le harcèlement, qu'il soit psychologique, social ou institutionnel, et les fractures invisibles qui marquent les individus.
Je me suis posé la question de savoir ce qui faisait qu'un individu était harcelé ou harceleur, harcelé devenait harceleur. Et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans le roman, avec peut-être aussi éventuellement une possibilité de guérison, une possibilité de pardon. Et c'était, pour moi, le roman, le harcèlement, c'était comme ça que je voulais le présenter.
Ouais. Voilà. Elle est là, la quête de perception pour moi, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Premier disque chouchou, je n'ai pas été chercher très loin, il se nomme Brume.
Ouais.
J'ai tout de suite pensé à toi. Ah. On écoute ça et on se retrouve juste après.
Ok.
Brume sur Radio Guémozo. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jérôme ?
Comme d'habitude, t'as le chic pour trouver des morceaux qui sont magnifiques. Et franchement, ça m'a vraiment...
Oui, c'est transportant.
Ah ouais, franchement, je crois que je vais me le repasser tout à l'heure à la maison. Voilà.
J'ai pensé à toi, je me suis dit, celui-là, il faut que je passe chez Jérôme. J'aurais pu passer un titre de Suzanne, Je t'accuse. Je vois que tu l'as mis en suggestion d'écoute au début de ton livre. Hein, vraiment une chanson qui lutte contre le harcèlement, hein, qui dénonce, j'ai envie de dire. Vous connaissez... Les filles, je t'accuse de Suzanne ?
Pas du tout,
ah
non
bon
plus.
Oh là là, il faudra le passer quand même. Hein, faudra le passer. Qu'est-ce que vous en pensez de ce thème du harcèlement, Lou, Sam ?
C'est un thème qu'on aborde, je ne peux pas dire pas assez, mais sur lequel il y a encore tellement de choses à dire, tellement de choses à apprendre. Mmh. Parce que si on ne l'a pas vécu de l'intérieur, on ne sait pas, on ne voit pas. Et ça fait un petit peu écho le thème de l'eau et peut-être même le thème du livre. Je pense qu'on en parlera après. L'eau... On voit la surface, mais tant qu'on n'a pas la tête sous l'eau, on ne sait pas, on ne voit pas.
Belle image.
Voilà.
Jolie.
Ok. Sam ?
Je trouve que c'est un thème qui est déjà très difficile à décrire. Oui, en effet, si on ne l'a pas vécu. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre de ce fait. Donc, c'est important qu'on en parle, même pour des gens qui ne l'ont pas vécu de près ou de loin, qui puissent être sensibilisés à ça. Et du coup, c'est très intéressant d'en parler.
Alors, comment tu as fait pour écrire sur ce thème ? Est-ce que toi-même, tu as été concernée ? Est-ce qu'il y a une espèce de volonté de sensibilisation ?
Alors, oui. Alors, justement, je me suis rendu compte que d'une certaine manière, à une certaine époque de mon adolescence, quand j'étais au collège, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais j'avais été agressé. Alors, j'étais pas non plus harcelé tous les jours, mais j'avais subi une agression. Et après, en grandissant dans le collège, en étant en troisième, je me suis vu harceler je vois encore l'image de quelqu'un d'un jeune que j'avais alpagué, etc. Enfin, je sais même pas pourquoi, tu sais, on fait des conneries quand on est petit, mais c'est pour ça que je pense qu'avec les années j'ai pris conscience de certaines choses et je suis pas un harceleur, je suis pas quelqu'un, au contraire, je suis plus l'inverse, mais justement je me suis interrogé de savoir pourquoi ce jour-là j'avais porté mon dévolu sur lui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Oui. Voilà. Et si je pouvais le revoir, je lui demanderais pardon. Et je lui demanderais, voilà. Et c'est comme ça que j'ai... je pense que c'est dans cette optique-là que j'ai écrit ce livre, quoi.
Ok. Voilà. Un petit côté de rédemption.
Ouais, parce qu'il faut, quoi.
Ouais. C'est important de pouvoir se dire qu'on peut être d'un côté comme de l'autre, que les choses ne sont pas figées, mais dans tous les domaines de la vie, en fait, hein, les choses sont mouvement. Du coup, ça t'a inspiré directement, ton histoire ?
Ouais. Une partie, et puis surtout, ce qui s'est passé. Ce livre, c'était parle du harcèlement, parle de l'eau, mais je voulais aussi rendre hommage à toutes ces victimes oubliées de l'eau, des enfants, des femmes, parce qu'on a parlé de, enfin, on a beaucoup parlé du petit Grégory, mais il faut savoir qu'avant il y a eu d'autres victimes dans les Vosges au fil des années et qu'on a oublié, qu'on a mis de côté, et je voulais un peu remonter un peu, comme on disait tout à l'heure, permettre à l'eau de remonter tout ça, en fait.
Remonter, voilà,
pour pas qu'on les oublie.
Ok. Alors, des victimes de quoi ? Tu nous parles de quel moment, là ?
Eh bien, il y a par exemple un enfant qui est mort à la Baule en 1949, pareil, dans un ruisseau. On n'a jamais retrouvé son agresseur. Il y a les filles de la fête dans les années 78, 80, etc. Il y a eu trois femmes qui ont été... qu'on a retrouvé à gauche, à droite, et voilà, pareil dans l'eau, et je voulais ramener ce souvenir-là.
Ok. Pour leur rendre hommage.
Pour rendre hommage, pour purger, pour ne pas oublier. Et d'ailleurs, après la sortie du livre, le jour où je suis allé en en dédicace, entre guillemets, en sortant de Cheny-Ménil. Et d'ailleurs, il y a encore le panneau. Je pense que c'est la famille qui a mis ça. Ils ont remis le visage d'une des filles dont je parle sur le bord de la route, là, près de la forêt de Tanière, pour pas qu'on l'oublie, quoi.
Oh, c'est fou, voilà. Ça. C'est fou de penser qu'il y a encore des affaires non élucidées et qu'on a mis carrément de côté.
Oui, mais je pense que c'était pour traiter des émotions qu'on peut ressentir, que l'agresseur peut ressentir, que l'agressé peut ressentir, ces sentiments de peur, d'angoisse qui peuvent nous traverser, remonter à la surface et qui sont totalement désagréables, des sentiments, des émotions qu'on ne contrôle pas forcément et qui à un moment donné rejaillissent et nous font perdre le contrôle, quoi. Voilà, comme un torrent tumultueux, c'est une eau qui est calme et d'un moment donné, ça revient.
Est-ce que tu as apaisé le torrent à travers l'écriture?
Ouais, j'ai essayé de l'apaiser, ouais.
Jérôme, tu nous montres comment la peur, le silence et la pression sociale peuvent façonner des vies et des choix, tout en laissant une place à la résilience et à l'espoir, si je ne m'abuse. Toujours cette note vitale dans tes romans, dans ton écriture.
Il faut, parce que quel que soit ce qu'on traverse, même là en ce moment, comme je te disais tout à l'heure, je m'interroge sur des choses, il y a des changements qui se passent, il y a des peurs primaires qui remontent, il y a mes propres peurs, il y a des peurs que les autres ont et qui essayent de rejaillir sur toi, tu vois. Et franchement, c'est à un moment donné, il faut quand même de l'espoir parce qu'on peut pas se laisser submerger par. Il faut avancer dans la vie. Alors oui, on traverse une tempête, on traverse une brume, on traverse ce que tu veux, mais faut avancer, quoi. Faut pas. Enfin, moi, c'est ma manière de.
Il faut pas stagner, quoi.
Non.
Ça, c'est une forte période en plus en ce moment, d'être très introspective déjà, parce que la saison hivernale arrivante, voilà, on baisse un petit peu le rythme, moins de lumière, moins d'interaction, et puis ben voilà, c'est une année qui se termine, donc alors on est tous un petit peu dans une énergie un peu particulière, je crois.
Ouais, 2025, tu l'as dit tout à l'heure, mais 2025, ça je l'ai constaté, c'est le retour, mais le retour fracassant de toutes les années passées, des trucs, on croise des gens qu'on n'a pas vus depuis tant d'années, etc., pour faire la paix ou non, ou machin, enfin voilà. Et parce que c'est la fin d'un cycle et il faut abandonner. Je crois que là, ce qui se passe, même moi personnellement en ce moment, c'est comme j'écrivais tout à l'heure, ou je disais tout à l'heure, c'est comme si je devais faire le deuil d'une partie de moi-même. Parce que c'est, y a quand même plus d'une vingtaine d'années qui sont passées, on a des mécanismes, etc. Et c'est difficile, en fait. Enfin, c'est et c'est ça qui est perturbant.
Ouais. Mais je pense que c'est une partie qui meurt pour laisser place à une renaissance, en fait. C'est exactement la définition de la mort, en fait.
Complètement. Mmh. C'est vraiment une renaissance et ça passe par... par la mise au tombeau, en fait. Oui. On nous demande on se retrouve devant notre croix, entre guillemets, si je peux prendre une image, après avoir subi une passion particulière. Et là, il faut qu'on accepte de descendre dans le tombeau pour ressortir et revenir à la vie, quoi.
Ce qui est impressionnant, c'est que dans cette année 2025, tu as écrit Brume, donc une espèce de rédemption d'un passage de ta vie.
Ouais.
Mais tu as aussi écrit Intime, une introspection illuminée, illuminante, lumineuse d'une autre partie de toi. Et je trouve ça incroyable que ça se soit fait durant cette année 2025, justement.
Ouais.
Allez, deuxième disque chouchou, histoire de un petit peu digérer tout ce qu'on vient de dire, parce que c'est très très fort là dans le studio. Peut-être qu'auditeur, tu le sens toi aussi. On va donc s'accorder une petite touche musicale. J'ai choisi le titre Plus que soi de l'artiste Oxmo Puccino, qui était d'ailleurs l'invité de l'émission Légende urbaine, dans laquelle il évoque son enfance dans le 19e arrondissement de Paris et la manière dont ce cadre l'a façonné. Confronté très jeune aux contrastes sociaux, il parle d'une espèce d'urgence, d'un miroir quotidien duquel tu ne peux te détourner. Il se souvient avoir mis près de 30 ans à comprendre le système dans lequel il évoluait à l'époque. Mais pour lui, cette prise de conscience n'appelle pas à la colère, il appelle à la clairvoyance. Il faut le comprendre et plutôt que de se battre contre les moulins, essayer de s'adapter, se battre pour toi, c'est se battre de toute façon. Et j'ai trouvé que le message était juste pour cette émission.
convaincus que nous sommes sur Terre pour sauver quelqu'un, sois-en certaine. D'une, ça fait moins peur d'être aidé, seulement il faut l'audace d'être aimé. Toutes ces blessures sans y avoir succombé, si le ciel s'écroule, nous pourrons le surmonter. Allons-y tout de suite, je suis pas prêt, si t'as la foi, croise les doigts que ça passe crème. Au milieu du naufrage, c'est promis volontiers qu'on va tenir et l'amour se prolonger. Tout ce que tu dépasses devient une étoile qui brillera plus loin que toi. Plus loin que soi, plus loin que toi-même, plus loin que soi, plus loin que demain, que l'horizon, le voisin ou la raison jusqu'à l'amour. Se lever chaque matin est le bénéfice, une centième chance d'éduquer nos fils. Et si les failles sont mal ignorées, reste du soir au matin pour s'améliorer. Il faut donner sans s'oublier, c'est pour nos gosses que je vais souligner. Ils naissent pour aller plus loin que nous, pas pour finir en croix sous les clous. Avant tout, les aimer ou nous payerons, nous vivons tous ensemble qu'on le veuille ou non. Je t'assure qu'après la peine viendra la joie, faut juste croire plus loin que soi. Plus loin que soi, plus loin que toi-même, plus loin que soi, plus loin que demain, que l'horizon, le voisin ou la raison jusqu'à l'amour. Plus loin que soi. La terre ne tourne autour de personne, aucune femme n'inversera l'homme. C'est régler des problèmes avec des ennuis, manquer le chemin aussi clair que la nuit. Même si chacun sa destinée, nous sommes tous les serrures ou les clés. Besoin de s'ouvrir, faut nous rassembler, aviser l'espoir, sois le premier. Plus loin que soi, plus loin que toi-même, plus loin que soi, plus loin que demain, que l'horizon, le voisin ou la raison jusqu'à l'amour. Plus loin que soi.
Plus loin que soi, Oxmo Puccino. J'ai bien aimé ce petit ton de résilience, d'espoir à travers ce titre.
Tout à fait, oui, j'aime bien.
Sam, tu avais relevé quelques petites choses que tu avais envie de partager dans cette odeur du son. Je suis très ravie de t'accueillir d'ailleurs.
En fait, j'ai trouvé, en écoutant, beaucoup de parallèles qui étaient faisables avec ce sujet de l'eau, tout ça. Et le fait que l'eau, c'est une des ressources, si ce n'est la ressource la plus importante qu'on puisse avoir sur Terre et dont on a besoin individuellement en tant qu'humain ou qu'être vivant, rien que ça. Et qu'en fait, en écoutant, c'est vrai qu'à chaque phrase, à chaque remarque, explication, j'arrivais à trouver quelque chose qui pouvait être relié à l'eau. J'ai notamment pensé à ce terme de remuer et tout qui me fait penser en tout cas dans un étang ou une flaque. En général, quand il y a des petits dépôts et qu'on remue l'eau qui devient toute trouble, il faut attendre avant que les choses se calment, tout ça. Tu as utilisé le terme stagner aussi, qui est complètement dans le thème. Et aussi, donc Jérôme a parlé de tombeau. Et ça m'a fait penser aussi à beaucoup d'histoires, en fait, au cours du temps et des siècles passés, tout ça, qu'il y avait beaucoup de civilisations qui utilisaient l'eau pour faire partir, justement, des corps sur des cours d'eau, pour qu'ils aient un chemin, en fait, que leur chemin soit fait par l'eau. Et on dit souvent que l'eau, du coup, a une mémoire et qu'il faut laisser partir certaines choses dans l'eau, avec le cours de l'eau, pour qu'elles les emportent là où ils doivent être. Et il y avait beaucoup de parallèles qui me faisaient penser donc à ça, et beaucoup de termes en fait qui sont reliés à l'eau. Et...
Alors déjà, je trouve qu'elle a une très belle voix, je lui disais.
Oui, oui, oui,
elle passe
vrai.
Très bien à la radio, ouais, c'est et vrai. Effectivement, c'est l'eau, c'est t'as tout dit en fait là, par rapport à ça. C'est, l'eau, elle est comme nous. Oui. Elle est en mouvement sur plein de choses et elle est liée à plusieurs émotions, plusieurs... Voilà.
C'est un moment suspendu. Mise en place du double décor temporel de brume, 31 décembre 1999, découverte des restes d'un enfant disparu dans le trou de l'enfer. Puis, 29 avril 2025, un corps au bord de la Moselle avec un origami tiré d'Ovid.
Alors oui, c'est... On a cet enfant qui est retrouvé après la tempête au mois de décembre par deux employés du Toli qui vont voir un peu les dégâts. Et c'est un enfant qui avait disparu deux mois plus tôt lors de la fête, à l'époque il n'y avait pas Halloween, mais du 31 décembre. Et puis il y a 25 ans plus tard, un retraité qui roule sur la voie verte du côté de Rue-sur-Moselle, de Vecoux, et qui s'arrête. Il est heureux, on lui a offert un vélo. Et en s'arrêtant le matin, il voit arriver un corps. Et derrière, il y a une ficelle avec ce petit origami et qui a été fait avec une page de L'Art d'aimer d'Ovid. Voilà. Et donc, tout au long du roman... je place, il y a des passages de L'Art d'aimer d'Ovid qui sont en rapport, que le tueur laisse à l'attention des inspecteurs, de ceux qui vont découvrir les choses. Et en fait, L'Art d'aimer d'Ovid, pour ceux qui ne connaissent pas, Ovid a écrit, on va dire, il a écrit deux tomes à l'époque. C'est un peu, on va dire... les conseils qu'il donne pour aller draguer des filles, etc., ne pas se faire prendre, enfin voilà, comment séduire une femme mariée, ce genre de choses. Ouais, et voilà, et comme ça a un peu râlé à l'époque, enfin voilà, il en a fait un troisième à la destination des femmes pour draguer les hommes et quel système utiliser pour aller séduire un homme qui est marié ou voilà, en utilisant tel ingrédient, tel machin à mettre sur une feuille, etc. Donc je reparle un peu de tous ces procédés.
Des petits rituels.
Voilà, okay. Voilà, qui permettent. Enfin, c'est assez rigolo. Présenté comme ça dans le livre, c'est vrai que ça fait un peu glauque. Mais quand on lit le livre, en fait, on rigole parce que ça a beau être une description du latin, une traduction du latin. C'est assez rigolo, en fait, la manière dont ils présentent ça au public, que ce soit les hommes et les femmes. Et si aussi j'ai choisi ça,
ouais.
Alors là, c'est pareil, c'est un peu plus... Il y a une symbolique aussi par rapport à ça.
Ouais.
C'est que, comme tu le sais, j'adore tout ce qui est ésotérique et j'adore me plonger dans les trucs un peu spirituels et remonter sur des vieux grimoires, etc. Voilà, des vieilles choses. Et dans une de mes lectures dédiées, aux formes... aux formes géométriques avec du pouvoir, etc. L'initié, parce que l'auteur est un initié de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. Et il explique que en fait, à un moment donné, il dit bon voilà, il y a des endroits qui sont sacralisés, qui sont protégés, mais il y a aussi des livres. Et dans ces livres qu'il cite, il cite L'Art d'aimer d'Ovid. Il explique qu'en fait, dans toutes les traductions, le livre a été traduit sauf un passage.
D'accord.
Parce qu'on dit que ce passage ne peut être traduit à moins de s'attirer sur soi la malédiction. Et il dit,
bon,
à l'époque, donc ça doit être dans les années 50, 1950, etc., il dit pour l'instant, il n'y en a aucun à travers le monde, quelle que soit la langue, qui a eu, on va dire, le courage, l'audace d'aller essayer de traduire la chose, quoi.
Non, c'est fou, ça.
Donc je me suis dit, tiens, je vais aller m'interroger, alors sans le traduire, mais je me suis dit, tiens, ça peut être un côté un peu sympa dans l'histoire, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, quand le premier cadavre arrive et quand l'inspecteur voit le truc, il dit, peut-être que... en fait, le gars essayait peut-être de traduire ce truc-là et voilà, tu vois.
Il y a un parallèle d'histoire en plus.
Il y a un parallèle, ouais, tout à fait.
Je connaissais un petit peu, du coup, Ovid et il y a plein d'autres histoires en fait. Et c'est vrai que ça ne m'étonne pas tant que ça, tant que lui.
Tu as choisi de lier deux époques, du coup, on en parlait juste avant, 1999 et 2025. Alors pourquoi ?
Parce que justement, en fait, le tueur, entre guillemets, c'est qu'ils appellent la gomotte, donc parce qu'ils pensent que c'est ça peut être une femme, ils savent pas. La gomotte, c'est une vraie femme qui a existé au Toli, justement au trou de l'enfer dont tu parlais tout à l'heure, qui avait la réputation d'être une contrebandière, mais surtout comme elle vivait à part, une réputation d'être un peu sorcière, tu vois, comme les femmes qui vivaient un peu, voilà. On essayait de leur donner une coller une image négative. Et donc, cette gomotte semble être revenue d'outre-tombe pour venger, pour une vengeance particulière en lien avec le gendarme qui est chargé de l'enquête. Et elle semble en savoir beaucoup sur lui. Le gendarme, il voit son fils, on va dire l'esprit de son fils qui est dans le coma, justement, suite à une agression de harcèlement, en fait. Voilà. Okay. L'esprit de son fils qui est dans le coma lui indique des choses. Et il semble connaître ce que veut la gomotte par rapport à son père. Ou voilà, il y a quelque chose qui lie la gomotte au gendarme. Voilà.
Ok. Il y a encore un aspect médiuminique.
Ouais. Ouais, tout à fait.
Ça, c'est récurrent hein, dans tes.
Ah il faut.
S'il n'y a pas ça, ça va pas.
Ça va pas. Il y a quelque chose qui colle pas, tu vois.
Troisième disque chouchou avant de continuer cette émission qui passe clairement à toute vitesse, hein, comme d'habitude. J'ai choisi les artistes Lumi, je ne sais pas si tu connais.
Pas du tout.
Un duo féminin originaire des Pays-Bas, avec une musique à la fois émouvante et profondément belle, qui révèle des harmonies et des compositions fascinantes. J'ai fait écouter ça tout à l'heure à Lou et Sam, je pense qu'elles ont été convaincues. Un Arte concert leur a d'ailleurs été dédié, je les ai découvertes sur les réseaux sociaux. Et j'ai vraiment été subjuguée, comme à chaque fois qu'elles postent quelque chose, moi ça me fait partir tout droit, tout en haut. On écoute ça tout de suite et puis tu me dis ce que t'en penses.
Ok.
Dance in the rain, mom won't stop calling. Trace the remains of faded chalk drawings. Chasing a silhouette. Pieces of innocence nested in places I lost. I'll do all it takes to be just a fraction
takes.
Chasing Silhouette des artistes Lumi. Je vous invite à écouter ça au son casque, parce qu'il y a des harmoniques que l'on entend vraiment plus particulièrement avec le casque. Et d'ailleurs, ce titre veut dire poursuivre des silhouettes. Je crois qu'il est bien tombé. Il est bien tombé, ce titre. Les personnages de brume sont autant de fenêtres sur l'âme humaine. Comment tu les as pensés, ces personnages? Et est-ce qu'il existe une partie de toi, un aspect de toi-même dans ces personnages-là?
Je les ai pensés en observant les gens, en observant le quotidien des personnes justement qui sont au contact avec le harcèlement, etc. Et je crois qu'une partie des personnages, en tout cas les un peu mystiques, etc., me correspondent en fait complètement dans ma manière de percevoir l'environnement que je décris dans le livre, quoi.
J'avais l'impression que même la brume était un personnage en fait du roman. Je cite: au loin, la brume matinale avait déployé son empire éthéré sur les prairies environnantes, créant un paysage à mi-chemin entre le monde tangible et l'onirique. Ce voile diaphane et mouvant s'élevait à quelques mètres au-dessus du sol, formant une frontière floue entre terre et ciel.
Ouais. Quand j'ai écrit ça, j'ai pensé et j'aime bien ce truc-là. C'est quand tu pars le matin au boulot et puis que tu vois cette brume qui s'élève là entre le syndicat et Remiremont là qui couvre une partie des arbres, etc. Et puis tu vois les arbres au-dessus. Enfin, ça me fait toujours penser à. J'ai l'impression que c'est une brume, tu sais, où il y a un loup-garou qui va sortir ou je sais pas trop quoi, mais qui a niveau et tu sais pas. Tu vois le haut des arbres, mais tu vois pas ce qu'il y a en dessous en fait. Mmh. Et sur ce plat-là, il peut y avoir des chevreuils, il peut y avoir ce que tu veux, mais. Ouais, c'est comme ça que je l'ai un peu pensé, quoi.
Mmh. Est-ce que tu vis un petit peu dans une autre réalité, toi, tu dirais, de par ta perception de la spiritualité, etc., mais aussi de par ta façon d'être l'écrivain, parce que c'est vrai que ça amène un petit peu à l'imaginaire, tout ça.
Ouais. Non, mais c'est... Ouais, je pense que je vis en fonction de mon cœur, etc., et de ce que je ressens. Il y a des fois, ben voilà, la nature... m'apparaît de telle ou telle manière en fonction de mes émotions, en fonction de mon ressenti, quoi.
Il y en a qui ont les yeux grands ouverts, voilà. On parlait tout à l'heure justement de cette notion spirituelle, enfin tout au long de cette émission pour être vraiment honnête, et j'ai trouvé que justement dans Brume, elle s'invitait également, et j'ai eu envie de te citer un autre passage: l'astre lumineux déployait progressivement son influence, perçant par endroits le manteau opaque pour créer des couloirs de lumière aux propriétés presque surnaturelles. Cette chorégraphie lumineuse semblait investie d'une intention quasi mystique, comme si les forces cosmiques elles-mêmes orchestraient un phénomène qui transcendait sa simple réalité physique.
Ouais, bah c'est en fait c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens en ce moment, c'est ce qu'on ressent tous. C'est-à-dire que là, on n'y peut rien. Il y a le soleil, il y a la lumière qui nous traverse, qui va pulvériser toutes nos ombres, qui nous fait trembler, qui nous nettoie et on ne peut que se laisser faire. Mais par contre, ouais, c'est ça, faut pas lutter, elle trouve toujours son chemin en fait.
Ouais.
Voilà.
Puis plus on est dans le sombre, j'ai l'impression plus elle s'impose.
Ah bah complètement, complètement. C'est elle s'impose. Plus on est dans cette obscurité, plus elle va vouloir. Elle va vouloir faire le ménage, quoi. Mmh, alors, tu vois, il y a une semaine de ça, je suis allé me promener et j'étais pas bien, etc. Enfin, il fallait que j'évacue des choses. Mmh. Et à un moment donné, j'ai reçu un truc que j'ai rajouté justement dans la version enrichie d'Intime, parce que je continue à l'alimenter par rapport à ce que je reçois. Et en gros, ils expliquaient qu'il fallait plutôt que se renfermer et fermer son cœur, il fallait ouvrir son cœur complètement pour leur permettre de faire le ménage, tu vois.
Oui.
Parce qu'on est un peu comme des pierres précieuses. C'est-à-dire qu'on va être nettoyé directement en ouvrant son cœur, mais en même temps, cette lumière va rejaillir sur les autres, quoi. Et si on est bloqué comme ça, voilà, on ne veut pas sentir une sensation quand quelqu'un est assez agressif ou quoi que ce soit, on se replie, etc. Et justement, ils expliquaient qu'il fallait faire l'effort d'ouvrir son cœur. Et même si on ne sait pas, faut... eux, ils font le job, quoi. Mmh. C'est, voilà, ça va, on va y aller, vous nous laissez passer et vous attendez que tout soit terminé, quoi. Mmh. Voilà.
Ah, c'est beau, quand même. Moi, j'adore quand tu viens. Est-ce que c'est une manière, justement, de mieux te connaître l'écriture, d'être plus aligné avec ce que tu es?
Je pense que c'est une partie, ouais, ça m'aide à me connaître, en tout cas à me renvoyer mes émotions et à mettre sur papier des choses qui, on va dire, qui me pèsent ou qui ont besoin d'être exprimées, quoi. Mmh. Voilà, comme dans Intime, comme voilà, c'est. Mmh. C'est super important.
Ouais. Comme toutes sortes d'art, en fin de compte, hein, c'est un cet aspect un petit peu voilà, salvateur. Mmh. Mais je trouve que les mots, c'est quand même quelque chose de particulier parce qu'il y a le mot juste, finalement, ouais. Tu vois, sur vraiment véritable, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on veut dire. C'est compliqué de trouver le mot juste pour toi ?
Non, c'est pas compliqué parce qu'il vient, il vient comme ça. Et puis, je sais que ceux qui liront Brume ressentiront des choses particulières et tu parlais d'Intime tout à l'heure, depuis qu'on en a parlé, enfin depuis qu'il est sorti, ouais. Tous ceux à qui je l'ai offert ou qui l'ont acheté, etc. C'est rigolo parce que soit ça les a changés, soit il leur est arrivé des trucs incroyables. Mmh. Quoi. J'ai une dame par exemple une fois qui m'a dit, son mari, alors lui il était totalement réceptif à ça, ouais. Mais elle n'était pas, voilà, et il lui dit, tiens, dis-lui ce qui s'est passé là quand t'as lu le passage. Alors, je cite ce truc-là parce que c'est en rapport avec l'eau, justement. Et dans Intime, à un moment donné, j'explique ce que je fais avec l'eau et ce que l'eau fait pour nettoyer, etc. Enfin, quel est le protocole. Et puis, elle me dit, tu sais, ce passage-là, ça dure 3-4 pages. Et bien, ces 3-4 pages étaient mouillées. Ah. Les 3-4 pages étaient mouillées. Et elle me dit, tu sais quoi, en plus... ça fait longtemps que j'ai un problème avec l'eau, j'ai peur de l'eau, voilà. Mmh. Et il n'y avait que ces pages-là qui étaient mouillées.
Incroyable.
Et que des trucs comme ça, en fait. Ouais. J'ai que des retours comme ça. Ouais. Donc je me dis, bon, voilà, la personne qui va partir avec le livre, j'attends de voir ce qu'elle va me redire, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un livre très, très fort. Mais en fait, comme à chaque livre que tu écris, il y a vraiment toujours quelque chose qui amène une compréhension supérieure, qui ouvre à une connaissance de soi, une connaissance des autres. Et je pense aussi à la lignée, nos ancêtres, d'où on vient, qui on est. Et c'est à chaque fois une connaissance un petit peu plus approfondie, j'ai l'impression. Ouais. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. C'est totalement subjectif. On se lance dans mon dernier disque chouchou avant de tranquillement se dire au revoir. C'est un son très atmosphérique. Ouais. Une nouvelle fois, il s'est imposé à moi pour cette émission. Je te laisse écouter ça et on se retrouve juste après.
Ok.
flottement délicieux, respiration délicate pour ce titre. Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Bah, t'as tout dit, c'est très délicat.
Ouais, c'est transcendant.
Ouais.
Vous avez aimé ?
Oh oui, moi je t'écouterai ça pendant une séance de méditation sans problème.
Ah oui, ça transporte. Jérôme, je t'ai confié du coup ton propre roman que tu nous as... que tu nous as ramené aujourd'hui. J'avais envie que tu en ressortes un passage qui te tient particulièrement à cœur.
Ouais.
Lequel as-tu choisi ?
Alors, c'est un passage. Alors, il faut imaginer, le gendarme sort d'un rendez-vous avec la femme qui s'occupe de son fils dans le coma. Il faut imaginer qu'il part du lac des Corbeaux et qu'il redescend vers Remiremont. Il écoute le titre de Catherine Lara, Nuit magique. Puis à un moment donné, sur la route, il croise la silhouette de la Gomotte, en fait. Et il y a une sortie, en fait, il y a une sortie de route, etc. Et là, l'atmosphère, elle change. Elle change, en fait. J'ai voulu le passage comme quand tu vois, quand tu as un ralenti dans un film où la voiture sort du... Voilà.
Ouais, ouais.
Donc, je vais vous le dire. L'ultime tableau de cette tragédie inexorable se déploya alors. Les ténèbres absolues l'engloutirent avec une voracité sans nom, telle une gueule béante d'un abîme infini. Cette obscurité transcendait la simple absence de lumière. Elle palpitait comme une créature ancestrale, consciente et affamée, qui aspirait son essence même. Chaque parcelle de son être semblait se dissoudre sous l'étreinte implacable de cette noirceur vivante qui s'insinuait dans les moindres recoins de sa conscience. Et c'est précisément à cet instant fatidique que la voix tourmentée de Gisli Gunnarsson commença à résonner. Les mots s'écoulaient avec une lenteur glaciale portée par la mélodie envoûtante composée par Efisio Cross. Les notes du morceau « Amène-moi », que je vous invite à découvrir, s'entrelacèrent avec l'engloutissement d'Isaacar comme si la musique elle-même orchestrait sa disparition. Les accords mélancoliques semblaient tisser un linceul sonore autour de sa présence vacillante. La mélodie plaintive accompagnait avec une précision cruelle chaque étape de son effacement. Les paroles évoquant la déchirure, l'abandon et les larmes résonnèrent comme une litanie funèbre, un requiem pour une âme en dissolution. L'harmonie douloureuse soulignait la transition d'Isaacar vers ce néant insondable, plus énigmatique que la mort elle-même. Dans cette symphonie de l'anéantissement, la conscience d'Isaacar se désagrégea note après note. Alors que les derniers vers imploraient de ne pas être abandonnés, son individualité s'évapora complètement. Absorbé par un vide plus profond que le sommeil le plus obscur, bercé par un chant qui semblait à la fois célébrer et pleurer sa disparition. Et là, je cite les paroles de la chanson. « Percé, brisé, amène-moi, rappelle-toi, souviens-toi, compte mes larmes, ne me laisse pas. »
Ça donne envie de lire tout le roman et puis d'en connaître surtout l'aboutissement. Comment on fait ? On essaie de revenir un petit peu dans le côté pragmatique des choses. Comment fait-on pour se procurer cet ouvrage Brume ?
Eh ben, il est sur Amazon, quoi, tout simplement. Voilà. Je dirais que juste pour la fin de ce roman, que je trouve magnifique, dont je suis assez fier, il faut le lire. C'est sans entrer dans les détails, vous allez découvrir Remiremont et ses environs autrement.
Est-ce que vous êtes convaincue ?
Oh oui, j'ai hâte de le lire, vraiment hâte.
Est-ce qu'il y a un prochain livre là en cours d'écriture, Jérôme ?
Il y en a toujours qui sont en cours. C'est... voilà. Mais je fais une pause. Parce que je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, faut laisser les choses se transformer. Et puis on verra bien après.
Vous avez besoin de vous ressourcer.
Exactement, exactement, ouais, tout à fait.
Laisser un petit peu les choses...
Décanter.
Ouais.
Jérôme, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on peut te retrouver sur un salon littéraire, peut-être ?
Eh bien, il y aura Fantasticar bientôt au mois de...
Eh oui, c'est vrai, ça.
Au mois de février, mais en ce moment, comme je te disais tout à l'heure, je suis en train de mettre fin à une carrière de... 20 ans de douane.
Ouais.
Et donc, il faut que je digère ça parce que j'ai envie aujourd'hui de me lancer dans l'inconnu, de me consacrer pleinement à l'hypnothérapie dont on a déjà discuté.
Oui. J'ai même fait
surtout,
une séance.
Ouais, et aux autres. Voilà. Mmh. Là, aujourd'hui, c'est un appel et effectivement, comme ça peut paraître bizarre, mais. C'est là, tu comprends tout mon trouble, c'est qu'en fait, quand on quitte une carrière de 18-20 ans de douanier bien chargé et de fonctionnaire, où on dit, voilà, à partir de telle date, je n'aurai plus de sous, plus la sécurité de l'emploi, mais parce que c'est pour mon bien, parce que j'ai besoin d'être moi-même et d'aider les gens, de pouvoir être dans ce monde de magnétisme, de machin, etc. Et ben voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est le besoin de faire ce deuil de ça et de me libérer de toutes ces peurs, etc. Et à ce moment-là, après, oui, je recommencerai à écrire tranquillement et à poursuivre.
Voilà. On t'accueillera avec plaisir. Après, c'est un moment d'inconnu pour ton mental, mais pas pour ton âme.
Non. Voilà. Mais je pense qu'on est, on est tous là. Ouais. On en est tous là aujourd'hui.
Ouais. J'ai hâte de te retrouver dans tes prochaines histoires, tes prochaines expériences. Et puis, je te souhaite vraiment plein de lumière autour de toi.
Merci beaucoup.
Cette émission, eh bien, elle sera podcastée et rediffusée très prochainement. En attendant, eh bien, auditeur, je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Guémozou. Au lieu de mon générique, je vais quand même leur passer Je t'accuse de Suzanne. Attention, accrochez-vous parce que c'est un morceau quand même très très fort. Merci Sam, merci Lou de votre participation aujourd'hui. J'étais ravie de vous accueillir dans l'odeur du son.
Ah, c'était une bonne idée.
Ouais. Et puis auditeur, c'est comme à chaque fois, tu prends bien soin de toi et tu prends soin des autres. Allez, kiss.
D'abord, il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. T'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. Et j'assume. Pour celles qui avaient prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.